L'homme à l'aise.
Une série d'émissions de Jean Thibault Folletier.
Avec la participation de Émilie Dubois.
Émission numéro 2. Le malaise de Freud. Tout n'est que poussière. C'est dire l'importance du plumeau. Alexandre Vialat. Chapitre 1. Les cynismes.
Entre le cynique de l'Antiquité et le cynique dernier cri auquel nous avons affaire, il y aura eu le cynique intermédiaire, celui qui aura distillé ces mots couperets de s'être cru revenu de tout en réponse à ceci, qu'il n'était, somme toute, parvenu à se rendre nulle part. Somme toute, ai-je dit, là où du reste conviendrait tout aussi justement. La somme, comme le reste, disposant le solde de l'opération depuis laquelle chacun est censé fonder son assise pour valider sa marche à suivre. Si hautaine soit-elle, la marche du cynique, en solitaire, et la marche de l'empire, en constitution, ont toutes deux des limites. Notamment celle d'être tout à fait restreinte dans le temps, et ce, malgré les étais dont ces deux-là se targuent face à l'effondrement inéluctable de leur position. La marche de l'Empire, pour le coup, ce n'est pas l'allant qui caractérise son avancée à pas cadencée, non plus que ses conquêtes. La marche de l'Empire, c'est sa limite spatiale. C'est le lieu du poste avancé, la borne depuis laquelle l'Empire discerne clairement où il n'est pas, à défaut de pouvoir cerner ce qu'il est. C'est en réponse à cet inconnu que Machiavel a dispensé ses conseils au prince, à la frontière de la masse et du solitaire. En réalité, les princes sont nombreux et chacun de nous, à sa mesure, pourrait s'amuser à reporter les estimations du Florentin sur la moindre parcelle de son quotidien, si peu guerrier celui-ci puisse-t-il paraître de prime abord. Oui, Machiavel se fait fort de prévenir les rapports qui se font jour entre les hommes. Il le fait à l'endroit où Freud avance dans sa certitude tranquille. Enfin, tranquillisé par le fil qu'il avait suivi jusque-là, si peu confortable est-il été ce fil. Machiavel se fait fort de prévenir les rapports qui se font jour entre les hommes, là où Freud avance donc, dans son livre « Das Unbehagen in der Kultur »,« Malaise dans la culture », que parmi les souffrances que leur imposait l'existence, les rapports entre les hommes étaient à coup sûr celles qui étaient la plus dure. Mais dans le même temps, celle qui était considérée pourtant comme la plus superflue, c'est-à-dire comme étant la moins digne d'intérêt. Si l'intention de Machiavel était de toucher le puissant qui régnait alors, Laurent II de Médicis, père de Catherine de Médicis, mais encore les puissants quels qu'ils soient, nous pouvons encore élargir le cercle de son adresse à considérer que la puissance appartient à tous au gré des circonstances, et suivant la relative portée que nous sommes bien obligés, quel que soit notre rang, de lui accorder. Machiavel s'adresse à tous, ce que prouve son audience, pour aider tout un chacun à apprivoiser le premier au-delà de sa propre marche, un au-delà constitué du moindre alter ego posté sur le chemin de son quotidien. Il s'adressait donc à chacun dans son rapport à l'autre, là où Freud établissait, rappelons-le, que ce rapport est ce qui constitue la plus grande douleur de l'humain. Ce qui est à relever chez Machiavel, c'est ceci, qu'il a établi son adresse à partir d'un point d'appui. Un point d'appui qui lui a paru nécessaire à certifier sa démarche. Vous voyez au passage que la nécessité de certification ne date pas d'aujourd'hui. Il est vrai que les choses ont évolué puisque la certification contemporaine n'intéresse plus guère que ce que l'on appelle, de façon un peu connotée, les éléments de production. Les éléments de la production à l'endroit où les garanties qu'on leur accorde pour validation, les normes, n'ont pour effet que d'entériner l'anonymat, l'interchangeabilité et au final le caractère dispensable de ceux qui les régissent, sans interroger outre bonne mesure sur la crédibilité de ceux qui les instituent. C'est ce qui fait qu'ici, pour soutenir la croissance, il y a la croix-science, située au croisement de croyances religieuses et de sciences, qui de religieux en prend le chemin. Croix-science qui, dans sa mécanique implacable, n'a de cesse que de faire son office, tel un bourreau, ou bien un prêtre. Au XVIe siècle, pour y revenir, le point d'appui de Nicolas Machiavel, le socle de ses propositions, la racine qui se ramifie dans les plus infimes développements de sa pensée comme dans les plus massifs de ses propositions, bref, ce qui sertit sa parole dans Le Prince, peut être saisi, pour exemple parmi tant d'autres, dans cet extrait.
Tous les écrivains qui se sont occupés de législation, et l'histoire est remplie d'exemples qui les appuient, s'accordent à dire que quiconque veut fonder un État et lui donner des lois doit supposer les hommes méchants et toujours prêts à déployer ce caractère de méchanceté toutes les fois qu'ils en trouveront l'occasion. Si cette disposition vicieuse demeure cachée pour un temps, il faut l'attribuer à quelque raison qu'on ne connaît point et croire qu'elle n'a pas eu occasion de se montrer. Mais le temps qui, comme on dit, est le père de toute vérité, la met ensuite au plus grand jour.
Voilà là exposé la constance et le fondement de la vision de Nicolas Machiavel. Les hommes sont foncièrement méchants. À partir de ce constat, présupposé que personne n'aura à remettre en question s'il s'agit de le suivre dans ses conseils, il se prévaut de pouvoir faire en sorte que ceux qui sont dans les clous de ce qu'il préconise puissent devenir princes et le rester. À lire son traité et à parcourir ses recettes, on ne peut que constater ceci. Le machiavélisme, c'est-à-dire la supposition de l'implacable efficience du pouvoir calculé, le machiavélisme dont on le qualifie est, contre toute attente, l'ingrédient qui manque à ce qu'il prône pour qu'à le suivre dans ses conseils, l'on puisse voir ceci effectivement prendre corps dans la réalité. Cela ne se peut, car il y a, dans cette réalité, autant que la comprenant, nous savons cela possible, il y a, revenant toujours à la même place, le grain de sable du réel, ou bien le réel du grain de sable. Mais encore, si donc le machiavélisme n'est littéralement pas dans la réalité, il est également tout à fait absent du livre de Machiavel, car à le parcourir, rien ne permet de repérer, et par là de soutenir, ce qui pourrait établir son identité, à savoir de faire le lien assuré entre le premier cas, dit de la pratique, et le second, dit de la théorie. Le machiavélisme, dont encore une fois rien ne dit que Machiavel s'en revendiquait, est une projection par laquelle s'imagine que ce lien entre la pensée et la réalité puisse se faire naturellement. Ce qui reviendrait à dire, nous l'avons déjà évoqué dans la première émission de L'Homme à l'aise, que la réalité puisse être identique à elle-même. Fantasme de l'identiquité. En réponse à quoi, il y a l'espace que je relève. L'espace incompressé, puisque incompressible, qui rime avec impossible, qui est peut-être ce qu'avance, sans que cela y paraisse au premier abord, la phrase inscrite sur le monument érigé à sa gloire à Florence.
Tanto nomini nullum par elogium, Nicolaus Machiavelli.
Est-il éloge qui puisse égaler celui que renferme son nom, Nicolas Machiavel? Car si cette phrase s'apparente au trait d'esprit dont elle revêt la forme, nous gagnerions à la prendre avant tout pour ce qu'elle est. Une question. Question à laquelle, pour ma part, je donne la réponse suivante. Parlant de fantasme d'identiquité, le cynique, tel que je l'ai défini, colle à son jugement. Il y est identifié et s'y fige, alors que Machiavel propose, lui, de s'en détacher, même s'il s'agit de faire avec. Ainsi, il ne s'arrête pas à l'estimation à partir de laquelle il fonde ses vues. Les hommes sont foncièrement méchants. Et c'est précisément cette distance qu'il prend, le fait qu'il se déploie à partir de là, qui marque le fait qu'il n'est pas un cynique. Ce différentiel, le fait qu'il ne s'arrête pas à son estimation, permet de constater que si le machiavélisme peut être un éloge, si grand soit-il, il n'arrive pas jusqu'au nom de Machiavel qui le comprend. Entendez bien, qui le comprend, mais qui pourtant ne le recouvre pas. Cela, de la même manière que je disais un peu avant, que le réel est dans la réalité, autant qu'il la comprend. Et c'est par cet espace particulier que Nicolas Machiavel acquiert sa stature. De ce que son nom puisse comprendre quelque chose, le machiavélisme, qui pourtant le déborde. En résumé, de Nicolas Machiavel, la personne, de Machiavel, le nom, et du machiavélisme, la pratique, aucun des trois n'est définitivement plus grand ou plus petit que les deux autres. Je fais ici une courte incise pour évoquer un objet qui a pour nom le nœud borroméen. Pour les psychanalystes, c'est un terrain connu, sinon en pratique, auquel cas elle s'en trouve généralement enrichie, du moins de nom. Pour ceux qui ne le savent, le nœud borroméen est un nouage de trois anneaux dont Jacques Lacan s'est servi pour illustrer les rapports entre les catégories du réel, de l'imaginaire et du symbolique qu'il mania durant près de trois décennies. Dans le nœud borroméen, chacun des trois anneaux représente une catégorie et est relié aux deux autres de telle façon que si l'on en détache un, tous seront déliés. Ce nouage particulier des trois anneaux représenta au XVe siècle les relations qu'entretenaient trois grandes familles italiennes qui scellèrent ainsi leur indéfectible union. Je rappelle que pour en arriver à évoquer cette relation tripartite ainsi symbolisée, nous nous sommes appuyés sur la relation établie entre Machiavel le nom, Nicolas Machiavel la personne et le machiavélisme la pratique qui en ressort. Trois éléments au sujet desquels il s'agit de toucher du doigt qu'il n'y a de prévalence absolue, comme pour le nouage borroméen, d'aucun des trois éléments. Et c'est là où je veux en venir concernant le pacte unissant les trois familles. Il y a en effet tout de même un petit quelque chose à noter à ce niveau. C'est extrêmement simple, au point de pouvoir paraître anodin, et à partir de là, demeurer jusqu'ici inaperçu. Si le nom de Borromée est resté pour désigner l'anneau, aujourd'hui, très peu sont ceux qui peuvent citer le nom des deux autres familles formant l'alliance. Autrement dit, si l'anneau borroméen reste le symbole de cette alliance, son nom marque avant tout l'effacement nécessaire des deux autres, en l'occurrence les Sforza et les Visconti. À cette place, il n'y a qu'un nom. Il n'y a de place que pour un nom. C'est le principe. Fin de l'incise, et j'en reviens à ce qui l'a précédé, qui était que de Nicolas Machiavel, de Machiavel et du machiavélisme, aucun des trois n'est définitivement plus grand ou plus petit que les deux autres. C'est cette mesure de relativité constante du rapport à soi indexé au pouvoir qui va nous permettre maintenant de passer par les cyniques de l'Antiquité, puisque, à défaut de parvenir à y toucher de façon satisfaisante en la pratiquant, ils prenaient notamment l'humilité. Bon, comme très souvent dans ces cas-là, l'humilité, à condition que cela se sache. Profitons de l'occasion pour évoquer un dessin de l'humoriste Vooch, où est représenté un homme très actuel qui arrive péniblement en rampant au sommet d'une montagne, sommet sur lequel trône un sage. Dans un dernier effort, il lui adresse cette supplique.
« Je veux accéder à l'humilité. Je veux même devenir le numéro un mondial de l'humilité. »
Oui, c'est drôle. Très drôle même. Mais la suite va nous montrer que cela ne l'est pas tant que ça. Voire pas du tout. Mais je reprends. Concernant les cyniques de l'Antiquité, il ne s'agissait pas seulement pour eux que cela se sache, de faire publicité du fait qu'ils soient humbles. Non, il fallait que leur humilité affichée soit assimilée à un savoir. Condition sine qua non, croyait-on déjà, à l'existence d'une école. Passé ces remarques, qui orientent la perspective de mon regard à leur endroit, je me contenterai de relever ceci. Et c'est là que ça devient beaucoup moins drôle. Que parmi les autres valeurs qui les caractérisent, nombre vont dans le sens de celles que supportent nos cyniques contemporains. Je veux dire les tenants des profits à tout craint, qu'ils soient sonnants ou trébuchements, si je puis dire. En effet, pour les antiques, sous couvert de vertu, rien de moins à atteindre comme but que la liberté, avec, délivré pour y atteindre, le passeport pour transgression des interdits. Jusque-là, rien qui les différencie des beatniks ou de l'adolescence la plus normale. Sauf à réaliser que ce gentil petit programme n'est rien d'autre qu'un blanc-seing accordé aux bouffons avant l'heure, les fous du roi. Fous nécessaires à supporter le roi et sa bonne parole. Sa bonne parole censée, du coup, être censée.
Accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle.
Ainsi, parlant de programme, constatons que la dite bonne parole s'est décalée d'étape en étape jusqu'au si œcuménique « Ensemble, tout devient possible ». Et au trait méthode Coué, « Yes, we can ». Après y avoir eu affaire, n'est-ce pas, chacun en connaît désormais le résultat. Chacun en connaît le résultat à défaut de bien l'avoir réalisé, c'est-à-dire d'avoir fait le lien entre le slogan et sa réalité. Car le résultat en question, c'est que le « Yes, we can », pris dans le mouvement implacable de la logique, poussant plus loin d'une case la pièce du cynisme, aura tout simplement fini par mener le fou du roi au pouvoir. Cynique un jour, cynique toujours, aux valeurs toujours opportunistes qui suivent la rigole finalement peu amène de la mascarade soutenue par l'homme à son aise. Lequel dépasse de loin le cynique intermédiaire que je disais à l'entame de mon propos. Vous savez, celui dont la langue véhicule son impuissance en lame de rasoir pour trancher dans le vide. Notre cynique actuel est d'un tout autre tonneau. Impuissant, lui aussi, mais d'une impuissance sans commune mesure. Il est en effet tout simplement impuissant, lui, à toucher à l'impossible. C'est-à-dire que de se croire sans limite, rien ne l'arrête. Mais c'est un rien qui l'oblige. Qui l'oblige alors à rien moins que de réussir l'opération alchimique. Changer le vil métal de la lame de rasoir des mots de son prédécesseur, le petit cynique, changer ce métal en or. C'est par là qu'il participe factuellement à la découpe de son prochain. Prochain qu'il aime à l'état de charpie. Là, plus que jamais autant, comme lui-même. Parlant d'alchimie, chacun sait que la chose dépend de l'éthique de celui qui manie le touchot. Pour le psychanalyste, l'éthique dépend de l'orientation que lui donne son discours. Discours est à entendre ici, non pas comme une adresse publique, mais comme étant la structure qui détermine la place dans le langage de celui qui s'y tient. Pour le psychanalyste, donc, l'éthique dépend de l'orientation que la structure du discours dit, discours du psychanalyste, lui donne en rapport à l'impossible. Impossible qu'il appelle le réel. Alors, pour répondre à la question de savoir à quoi s'attendre de la part du cynique contemporain, pour le dire clairement, de celui qui donc est pris dans le discours dit capitaliste, qui ne l'est, puisque c'est un discours sans limite. Il suffit de revenir au 12 mai de l'année 1972 à Rome, lorsque Lacan fit la démonstration, jusque-là inédite, du fait que le discours capitaliste, précisément, de discours n'en est pas un. De là donc, s'attendre à voir surgir une éthique d'un discours qui n'en est pas un, quand l'éthique ne se conçoit que du discours qui situe celui qui s'en extrait, revient tout bonnement à considérer cette éthique-là comme une simple morale améliorée. Pour dire les choses, une morale enflée d'une valeur ajoutée à laquelle s'étiole plus qu'il ne s'étalonne celui qui pense pouvoir s'en arranger. Chacun peut en faire le constat d'y prendre part. À partir de là, concernant le cynisme, deux dernières remarques. La première. Nous savons tous que la valeur ajoutée a pour corollaire le ravalement au rang d'objet quiconque s'y frotte. Cela n'empêche, voire même incite, par exemple, pas choisi pour rien cet exemple, à ce que sur la radio France Culture, nombre d'intervenants, comme s'il s'agissait d'un passage obligé, mot de passe, customisent dans leurs propos le terme de « réalité ». Ils y ajoutent valeur en la dénommant « réelle ». à entendre dans leur bouche avec une majuscule. Comme s'il suffisait d'un enchâssement majusculaire établi en baissant la tête pour toucher à l'impossible, au réel, et s'en attirer d'une façon si économique autant que servile les bonnes grâces. Ce qui m'amène à la seconde remarque, beaucoup plus rude, qui est que cette imposture est bien entendu ce qui se pratique partout. La chose en soi n'est déjà pas rien, mais on ne doit surtout pas passer à côté de ce qui conditionne cette réalité, qui est ceci. Le partout dont il est question est le lien, je dis bien est le lien, le lieu du partout est le lien que scelle le discours commun, à écrire en un mot. Le discours commun est celui qui a trouvé son assise lors de l'effondrement du communisme et qui se déploie là où le capitalisme, depuis la chute du mur de Berlin, aurait vaincu, dit-on. La question à se poser est la suivante. Où est ce « où se déploie la structure parlée du vainqueur ? Comme le chantait si joliment Alain Bachung.
Partir, aller où ? Où c'est où c'est partout qu'on aille.
Oui, qui ne le sait ? La capitalisation communiée de la valeur ajoutée comme discours commun, l'illusion, et partout où qu'on aille. À une époque, je nommais cela le commutalisme, soit la communauté obligée du capitalisme. Et je ponctuais, tel un oiseau de mauvais augure.
Les murs tombent, mais le fracas de leur chute s'accompagne toujours du redressement de leurs ombres, plus fortes toujours, encore et encore.
Fin des remarques. Alors, si dans ce joyeux panorama, je ne veux pas moi-même finir par faire figure de cynique d'une nouvelle espèce, ce sont toujours les pires, confère l'homme joyau de l'évolution, je n'ai pour cela qu'à évoquer le malaise de Freud.
Chapitre 2. Le malaise de Freud. De l'évaluation à la prière.
En 1930, Freud fit un malaise d'un nouveau genre. Un malaise d'une gravité absolument inédite. Vous l'aurez compris, je parle du centre de gravité de ce malaise qu'il cerna comme personne avant lui dans son livre « Malaise dans la culture ». Lire Freud ne peut être que le lire au sens, anagramme, de s'y lier. Ceux qui l'ont fait savent ce qu'il en coûte. Au bas mot, c'est une mise au travail qui se mue en mise aux travaux. Forcée, bien sûr, et effectivement, pour le coup, il s'agira d'une peine et d'un temps qui extrait le lecteur du temps et du lieu de la comprenoire collective. Au titre de ce que l'inconscient ne se comprend pas, ni collectivement, ni individuellement. En évoquant la Vienne du début du XXe siècle, et Sigmund Freud, le pauvre médecin juif qui y découvrit l'existence de l'inconscient, se référait ici à l'existence heideggerien, je convoque implicitement l'idée de contexte. Je vais essayer de rendre en quelques mots ce que j'ai déjà présenté à ce sujet dans le texte « Impressions depuis deux lectures » de Sigmund Freud et de Ginette Rimbaud. Il s'agissait d'y établir des points d'analogie entre celui que tout le monde croit connaître et celle à laquelle seuls les psychanalystes se réfèrent éventuellement. Analogie devant alors permettre de les distinguer absolument l'un de l'autre dans le génie de leur pratique et du rendu qu'ils en ont fait. Je reviens à cette notion de contexte par le biais de cet écrit car le thème de contexte tel que je l'abordais alors permet, me semble-t-il, de faire un pas de côté par rapport à l'appréhension convenue que l'on en a habituellement. Appréhension qui est, pour dire la chose, d'en faire l'instrument d'un arrangement. En quelques mots, donc, voici ce que j'ai pu élaborer alors sur le sujet du contexte dans lequel vient prendre place la parole de Freud dans les années 1900. Contexte dans lequel étant précisément une formulation discutable. En effet, pour être contextualisé, sa parole doit s'insérer dans ce que l'on peut appeler l'historisation, c'est-à-dire être répertorié à la condition de ne pas faire rupture avec ce que l'on place sous le titre de sciences humaines. mais elle ne peut y parvenir sans passer auparavant par le sous-titre de la condition éthique, celle qu'implique le discours dont s'extrait la parole de Freud, à savoir de supporter que le pont n'existe pas. C'est à ce titre que de rupture, il ne peut pas même être question. Tout au plus, y a-t-il des réponses à envisager de ce que les Freud ou les Rimbaud introduisent au sein du factice le littéral d'une rive autre. En résumé, leur parole est donc bien moins à situer dans un contexte, lien forcé qui n'est jamais que de connivence, voire de connaissance, qu'en référence à un hors-texte jusque-là inabordé. Freud, extraterrestre, gentilé d'extraterritorialité, c'est là qu'est situé l'inconscient, au temps et au lieu de la Vienne du début du XXe siècle, pouvait entre autres hors-texte, c'est-à-dire texte inouï jusqu'alors, poser que
« Chez aucun individu normal ne manque un élément qu'on peut désigner comme pervers s'ajoutant au but sexuel normal. Et ce fait devrait seul suffire à nous montrer combien il est peu justifié d'attacher au terme de perversion un caractère de blâme. »
Mais encore ceci.
« Il n'y a pas de normes sexuelles. Il n'y a que des normes sociales. »
Ce genre de constat, de prime abord inaudible et jusqu'à Freud insupporté, désigne combien Freud, sans barguignage, était à la hauteur de ce qu'implique le premier effet de toute découverte. Il l'était concernant la sienne en ceci qu'il pouvait supporter le vif de ses arêtes, dussent leurs tranchants se retourner contre lui. Ces phrases de Freud, puisque extraites, sont hors le contexte de leur hors-texte, c'est-à-dire hors le corpus où elles s'inscrivent, ce qui nous prive des effets les plus lumineux de leur miroitement. Malgré cela, c'est par là que j'ai été amené à considérer ce qui fait ici l'un des points de la communauté que j'ai souhaité relever entre Sigmund Freud et Ginette Rimbaud, à savoir que la phrase théorique est une fleur qui ne peut pousser et s'épanouir que sur le terreau parfois aride de la pratique. S'y référer par ailleurs n'est que de l'ordre du prétexte, là où se jouit la contrebande officielle que devient, dans ce cas, la ligne du parti, à savoir le contexte. Bien. Voilà en substance ce que, à propos du contexte dans lequel la parole de Freud venait à pouvoir être considérée, je posais alors. C'est dire si aujourd'hui, au regard du temps qui nous sépare de cette inscription et du contexte historique actuel pour le moins tout aussi contraignant, bien que radicalement autre, la tâche est ardue de rapporter ici le malaise qu'il nous dévoila. Ardue, mais évidente d'orientation, puisqu'il n'y a pour ce faire qu'une seule voie, et que cette voie est celle que nous allons suivre. De considérer comme lui que son malaise est le nôtre. Entendez bien cela. Un malaise toujours hors le texte de la norme, que pourtant il promeut. La norme, c'est le contexte. Un malaise toujours hors le texte de la norme que pourtant il promeut, donc, sans pour autant lui-même, ce malaise, être indéchiffrable. Ça, c'est la traduction de « pas de normes sexuelles, que des normes sociales ». Nous l'avons déjà situé quelque part, ce malaise, de la théorie et de la pratique. Ce qui ne veut pas dire entre ces deux lignes. Ces deux lignes, qui sont celles repérées pour Machiavel à l'endroit où, comme je l'ai dit, l'adjectif qui découle de son œuvre, le machiavélisme, ne fait lien entre elles que d'être absent et de l'une et de l'autre. Pour Freud, c'est autre chose. Sa théorie est en mouvement du fait que sa pratique n'est pas arrêtée, pas de recette. La pratique du psychanalyste ne peut être arrêtée car elle est liée à la vérité du sujet en analyse, de l'analysant, laquelle vérité est postée sur le mouvement du langage. C'est ce qui fait que l'on n'en saisit jamais qu'un bout. Et en réalité, il faut bien le dire, c'est lui qui vous saisit. Entre les deux et de l'un à l'autre, il peut y avoir le mouvement de la recherche. Pas étonnant alors que Lacan ait pris la relève et s'escrima sa vie durant sur le mouvement de la recherche au niveau de celui du langage. J'en reviens maintenant à notre rapport à Freud, lorsque je disais qu'il s'agissait de considérer que son malaise est le nôtre. Pour toucher à cela, nous allons avancer pas à pas en commençant par lier deux commencements l'un à l'autre. Le premier de ces deux commencements est l'un des actes fondateurs de la psychanalyse. Lorsque la baronne Moser, alias Amy von N., patiente de Freud, lui demanda, lors d'une séance, de se taire, de la laisser parler sans l'interrompre, et qu'il obtempéra. Silence. Il se tut. Elle parla. Il entendit. La psychanalyste Michel Moreau-Rico, interviewée parmi 21 autres de ses collègues, dans le livre « Silence », rapporte cela d'une façon sublime en décrivant ainsi le constat de Freud.
En posant des questions, il n'obtenait que des réponses.
Silence. Le deuxième commencement est celui qui nous permet d'entrer directement dans l'œuvre qui nous intéresse puisqu'il s'agit de la première phrase de Malaise dans la culture.
On ne peut se défendre de l'impression que les hommes se trompent généralement dans leurs évaluations.
Passé la pondération courtoise du généralement, on peut se demander de quel glèbe s'extrait cette sentence. Une chose est certaine, c'est que si c'était celle du cynisme, Freud n'aurait pas passé sa vie à essayer d'en sortir ses patients. Que les hommes se trompent et que cela fasse pour Freud son prime point d'appui laisse augurer qu'entre cette marque délétère qui détermine leur choix et l'indice qui devrait au contraire leur permettre de se repérer, il y a un différentiel correspondant à une parole déficiente. Soit d'être non dite ou bien déplacée, ou d'autres cas de figure encore, mais qui toujours confinent au silence qui marque cette maladresse. Deux commencements et du silence, et des silences, au départ ou bien à l'arrivée, ou bien aux deux, du silence structurel, du nécessaire, du mortifère, ou pire encore, le silence partout tue de s'être éteint par la parole. En elle. C'est là la langue mortelle de l'homme à l'aise. Si concernant Machiavel, son estimation des hommes, ils sont méchants, ressort du bruit et de la fureur, celle de Freud surgit des silences que nécessite la découverte de l'inconscient et de ceux que celui-ci impose. Le malaise demeure, le malaise est à demeure de ce que la parole ne puisse le recouvrir. Les hommes se trompent dans leur évaluation, donc. Piquant, n'est-ce pas, de voir, comme nous avons déjà commencé à l'évoquer plus haut à propos de la certification, que nous en sommes aujourd'hui arrivés à évaluer que l'évaluation est l'indice de la fiabilisation et de la résolution annoncée des rapports humains. Cela, alors que s'il est une chose qui se confirme inlassablement, c'est bien que l'évaluation, le cadrage ainsi abordé du rapport, est la marque du malaise. Sans doute, est-ce ainsi qu'il fallait entendre la phrase de Freud pour indice de ce qui allait suivre dans son livre, mais également se poursuivre jusqu'à nous. Parlant de cadre, c'est une juriste, Laureline Fontaine, qui m'a fait remarquer que dans les écoles primaires, en termes de dénomination des examens, nous sommes passés en trois générations, de la composition à l'évaluation. En effet, la composition à entendre comme celle évoquée par un musicien qui commentait un morceau de jazz en disant que c'était une très belle composition. La composition, donc, était le rendu qu'un élève, un sujet, proposait depuis les objets scolaires qu'on avait mis à sa disposition. La composition est ensuite devenue le contrôle. À ce niveau, le professeur a perdu son statut de chef d'orchestre et est devenu un contrôleur. Il a troqué sa jaquette pour une casquette et la circulation qu'il régit maintenant est celle qui mène au péage des autoroutes de la connaissance. À propos d'autoroutes, je rappelle que le « y a pas de souci » actuel succède au « y a pas de malaise » qui en sous-main fait office de ticket d'entrée sur les voies sans issue de la communication. Être tous liés les uns aux autres par l'accessibilité la plus immédiate supportant la parole la plus univoque qui soit, de tourner autour d'un seul axe, l'effacement du sujet du langage. Ça, il ne faut pas s'y tromper, c'est le vœu le plus palpable, le plus commun, le plus communautaire de tout un chacun. C'est ce qui découle du passage du contrôle à l'évaluation. Dorénavant, les normes sont les sujets et ceux qui s'y calibrent, dès la maternelle, sont devenus des objets. Permutation des termes pour avènement du commutalisme. Oui, ce cher commutalisme, ou la production rêvée d'objets de production. Rêver d'être sans partage, puisque généralisé. Pour exemple, après au bas mot 9 années de sélection d'une incroyable rigueur, le dernier examen des étudiants en médecine, l'un des fins du fin de la pratique universitaire, est sanctionné par un QCM. Des croix dans des cases. Il n'y a pas de malaise. Si les mandarins de Chine suivaient une voie ultra sélective avant d'endosser leurs fonctions, ils se référaient au principe taoïste et notamment à celui de suivre la voie, V-O-I-E, là où celle-ci désigne que le ton et la voix, V-O-I-X, qui le supportent, s'accordent mutuellement. Taoïsme, donc, là où le ton et la voix s'accordent. Mettons que dans nos contrées, les mandarins du futur suivent désormais une version du vide et du plein sauce mutique. Univoque sans principe autre que de ne rien supporter des effets de cette parole qui coule dans les veines du corps qu'il coche. Il le coche à travers les molécules et les formules qu'il manipule. C'est ainsi qu'ils ordonnancent, dans un silence au sein duquel gît ce qu'ils ne peuvent entendre, l'écho de désir qui l'anime ce corps, le leur compris. À ce niveau, c'est sans contester l'évidence que Jean Clavreul, médecin et psychanalyste, énonce à la première page de son livre, L'ordre médical, quel titre merveilleux, que
« Personne ne saurait au fond opposer quelque objection que ce soit quand on sait qu'un traitement anodin peut venir à bout d'une infirmité ou qu'une intervention techniquement complexe peut sauver une vie perdue. »
Et de là, conclusion de son ouverture,
on ne déroge pas à une obligation qui est constituée par un savoir assuré.
Il ne conteste pas l'évidence, mais c'est pour mieux labourer du soc de sa formation de médecin et de sa pratique de psychanalyste, pour mieux ciseler tout du long de son ouvrage le champ que l'évidence ne recouvre pas. Reportons-nous à la quatrième de couverture de son livre pour le voir nous en présenter le différentiel, pour le voir nous présenter, comme dit lors de la première émission de L'Homme à l'aise, l'évidement de l'évidence, et l'entendre nous livrer le nom de cette différence.
La médecine est fascinée par son efficacité sur ce qu'elle constitue comme son objet, la maladie. Elle n'est pas moins fascinante par son efficience sur ce qu'elle destitue, l'homme comme sujet du désir. Vestale du désir insatisfait, l'hystérique n'a cessé de provoquer le médecin, jusque dans ses temples, de l'Asclépiade de Cos à l'hôpital de la Salpêtrière. C'est de l'échec du savoir médical ainsi constaté que Freud a tiré la leçon. On ne fait pas la loi au désir, c'est le désir qui est la loi.
Oui, Freud était bon élève. Il entendait de loin, et à le suivre dans le rendu de son écoute, on avance avec lui au rythme des leviers successifs qu'il découvre et qu'il met à notre disposition. Il le fait grâce à un positionnement qu'il soutient, alors qu'il est dans le dénuement le plus total face à ce qu'il met à jour. Je traduis la chose par cette formule qui ne s'applique finalement que dans de très rares circonstances. L'intelligence est un courage dont on n'a pas le choix. Cheminant avec Freud, nous sommes partis de l'homme qui, dixit, se trompe généralement dans ses évaluations, pour en arriver maintenant à la deuxième proposition du jour extraite de Malaise dans la culture. Une réflexion qui pourrait n'être qu'amère et désabusée si, comme toujours avec lui, elle ne proposait rebond. Elle fera office de conclusion à notre parcours du jour. Je vais introduire cette deuxième réflexion de Freud via une figure particulière qui est celle de son style. Style qui fait habituellement l'objet de développements beaucoup plus poussés de la part des commentateurs de Freud concernant le style de sa ligne de réflexion et celui de son rendu épistolaire qui saisissent par leur limpidité. L'un comme l'autre, d'apparence légère et de prime abord accessible, mais qui, comme Prévert le disait à propos du poète Antoine Tudal, manifeste que
« Il a sa langue à lui, ce qui ne court pas les rues. Elle est, si on sait lire, d'une trop étrange simplicité. »
Pour ne pas dire « piégeuse ». À accepter de lire Freud là où, comme dit précédemment, lire est anagramme de lier, on est tiré par un lest de plus en plus avéré qui nous entraîne vers des réflexions de plus en plus ouvertes. Ce lest est constitué d'un socle de repérages qui paraissent peu ou prou très familiers, que l'on s'y accorde ou pas, mais qui se dévoilent au fond radicalement impensés jusqu'alors. L'ouverture, elle, se révèle être un abîme. Espace finalement aussi accueillant que malaisé à habiter, et l'on ne peut alors que ressentir la plus grande déférence envers celui qui le premier leur a investi pour tenter de nous en transmettre les coordonnées dans leur insaisissable. Pour autant, nous le savons, parlant de psychanalyse ou d'autres pratiques, les savoir-faire se dissolvent plus souvent qu'à leur tour dans le corpus censé soutenir le mode de leur transmission. Alors, pour prévenir l'évanouissement de la pratique au creux des divers courants qui la supportent, s'agirait-il de distinguer, aussi abruptement que promptement, la fleur de sel faisant étoile à la furie de ce ressac. Et vous l'aurez deviné, cette étoile est le style, puisque le style, c'est ce qui reste quand tout commence. Ceci étant dit, venons-en à la deuxième assertion extraite de Malaise dans la culture que je souhaite relever aujourd'hui. Elle est placée au tout début du deuxième chapitre.
Dans mon livre L'avenir d'une illusion, il s'agissait pour moi beaucoup moins des sources les plus profondes du sentiment religieux que de ce que conçoit l'homme ordinaire quand il parle de sa religion et de ce système de doctrines et de promesses prétendant d'une part éclairer toutes les énigmes de ce monde avec une plénitude enviable et l'assurer d'autre part qu'une providence pleine de sollicitude veille sur sa vie et dans une existence future s'appliquera à le dédommager des privations subies ici-là. Cette providence, l'homme simple ne peut se la représenter autrement que sous la figure d'un père grandiosement magnifié. Seul un tel père peut connaître les besoins de l'enfant humain, se laisser fléchir par ses prières ou adoucir par son repentir. Tout cela est évidemment si infantile, si éloigné de la réalité que, pour tout ami sincère de l'humanité, il devient douloureux de penser que jamais la grande majorité des mortels ne pourra s'élever au-dessus de cette conception de l'existence.
Pour tout dire, c'est la conclusion de ce passage, et plus précisément son ton, qui dès la première lecture m'avait retenu. Un ton qui remet les choses à leur place, les choses les plus fixées, à savoir les pratiques et les motivations de la croyance religieuse la plus quotidienne. À entendre, celle du quotidien en apparence le moins religieux. Sans qu'il ait fallu, pour l'auteur de ce constat, s'appuyer sur les termes outrés et les idées restreintes dont il est habituellement fait usage pour cela. Un ton qui semble coller à la chose et en amortir les saillies les plus douloureuses. Pour ceux dont il est question, ceux qui sont ramenés aux illusions de l'enfance, il me semble que le plus difficile à entendre ne soit pas directement cela, mais bien plutôt qu'il n'ait pas d'espoir à s'élever de leurs conditions, et ce, du fait qu'ils aient choisi de s'en contenter. Ce qui revient à dire que le plus difficile à entendre n'est pas pour eux, qui ne veulent rien entendre, passion de l'ignorance, mais pour ceux qui y ont affaire. Vous voyez, comme je le disais, amortir les saillies, mais certainement pas les polir, ni en ravauder les effets, puisque pour ce qui est des effets, il n'y a qu'à se pencher pour les observer, tous plus dégradants les uns que les autres. Par exemple, ramener l'homme à l'enfant, c'est tout de même poser sur la table ceci, déjà traité dans le chapitre 1, que tout lui est permis, surtout à considérer, qui ne le sait, parmi ceux qui les fréquentent, les enfants, au quotidien, que ce « tout est permis » est orienté vers le registre du pire dans le rapport à son prochain. Savonarole, Pol Pot l'ont mis en œuvre et tous les pousses au combat actuels le savent. Le pire. Du pire au père, qui sont les deux faces d'une même médaille consacrée, Lacan a formulé comme touche finale de son intervention télévision qu'il y avait pourtant un espace à investir prestement. Là encore, le pari de la psychanalyse. Bref, ce père dont parle Freud est celui qui est censé pourvoir, compenser et tout autre comblement du même genre. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, d'une façon ou d'une autre, il est censé répondre. Ce qui implique avant tout la supposition de sa présence. Un su posé pour acquis, en quelque sorte, comme se dirait en termes de finances, une mise engagée avec retour garanti sur investissement. Ce à quoi fait écho dans l'analyse ce qui se joue, ou plus exactement ce qui se trame à partir de la notion de sujet supposé savoir. Une trame tissée sur le métier que pratique chaque analyste. À cette supposition de savoir qu'on lui impute, le psychanalyste oppose une fin de non-décevoir par le biais d'un certain silence. Silence qui n'a de certain que de supporter le temps de l'incertitude. À partir de quoi, une chose est sûre, c'est que si l'analyste est bien situé dans ce silence, celui-ci n'alimentera pas la prière en retour. Car enfin, au psychanalyste, la seule prière qu'on lui adresse et qu'il doit pouvoir soutenir, c'est de faire silence pour que l'analysant puisse enfin en supporter l'écho. Un écho dans sa parole, hors l'ailleurs de la séance, pourra parfois rendre le style. Puisque le style...
c'est ce qui reste quand tout commence. Alors, ami auditeur, si tout n'est que poussière, as-tu songé à y inscrire ton nom ? Rendez-vous est donné dans quelques semaines pour la troisième émission de L'Homme à l'aise. Il y sera présenté la suite de l'interprétation du livre de Sigmund Freud, Malaise dans la culture. Vous pouvez retrouver l'intervention d'aujourd'hui en podcast sur le site de la radio RDWA, rdwa.fr, ainsi que accompagné de sa version écrite téléchargeable sur le site de Jean-Thibault Fouletier, tybolt.fr, tybolt.fr. Nous vous laissons maintenant avec le duo constitué de Brigitte Fontaine et de Areski qui nous interprète une chanson extraite de l'album Bonheur, tirée de l'année 1975, c'était il y a 46 ans, Les étoiles et les cochons.
Ah, le temps où les étoiles fument.
Ah, le temps où les cochons s'envolent.
Ah, le temps où les cailloux s'enrhument.
Ah, le temps où l'eau a la parole. Ah, le temps où les citrons s'allument. Se change en crème, à le temps où le temps se déplume, à le temps où les personnes s'aiment,
les giroflées crieront, les fleuves brûleront, les astres jouiront, les couteaux fleuriront,
les sources pousseront sur les palmiers dansant. Les loups rêveront dans le cœur des amants.
Ah, le temps où les soleils se baignent.
Ah, le temps où tout le monde est rose.
Ah, le temps où les oranges saignent.
Ah, l'amour où les serpents se noient.
monde s'envole. Ah, le temps où les cailloux s'enrument. Ah, le temps où l'eau a la parole. Ah, le temps où les citrons s'allument. Ah, le temps où l'or se change en crème. Ah, le temps où le temps se déplume. Ah, le temps où les personnes s'aiment. Les criront, les fleuves brûleront, les astres jouiront, les couteaux fleuriront, les sources pousseront sur les palmiers dansant, et les loups rêveront sur le cœur des amants. Ah, le temps où les soleils se baignent. Le monde est roi. Ah, le temps où les oranges sèchent.